Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. L'Indonésie effectue 500 tests de l'hépatite pour les femmes enceintes en 2016. Le président indonésien Joko Widodo a ouvert la réunion de la Cour constitutionnelle de l'Asie à Bali. L'Indonésie tient une réunion internationale sur la lutte contre le terrorisme. BNPT et la délégation des États-Unis ont discuté de la prévention du terrorisme. L'Indonésie renforce la coopération de défense avec le Vietnam. Le festival de Bali devient l'icône du tourisme de Papouasie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'hépatite est une infection de l'organe de foie humain qui est causée par divers facteurs tels que le virus, bactéries, médicaments, alcool et d'autres substances dangereuses qui peuvent conduire à la mort du patient. Le gouvernement indonésien, à travers le ministère de la Santé, mène le contrôle en effectuant une série de tests de l'hépatite pour les femmes enceintes tout au long de l'an 2016. Il a été dit par le directeur du contrôle de la maladie contagieuse du ministère indonésien de la Santé, Windra Waworuntu, à la Voix de l'Indonésie, en mars de l'atelier des médias lié à la Journée mondiale de l'hépatite, sur le thème « Connaître l'hépatite, agir aujourd'hui » à Jakarta, mardi.
Sejauh ini yang kita lakukan itu adalah deteksi dini.
Jusqu'à présent, le ministère indonésien de la Santé a fait la détection précoce de l'hépatite B. Nous se concentrons sur les femmes enceintes et cette année, nous menons 500 000 tests pour les femmes enceintes. Si elles sont détectées ayant une hépatite positive, cela signifie que leurs bébés sont également infectés. Le contrôle sur les cas d'hépatite est l'un des programmes du gouvernement. De plus, Windra Waworuntu a affirmé qu'à présent, il y avait 28 millions d'Indonésiens qui sont infectés par l'hépatite. 14 millions d'entre eux souffrent d'hépatite chronique. Par conséquent, pour prévenir la propagation de l'hépatite à l'avenir, Windra a déclaré le gouvernement donne régulièrement le vaccin anti-hépatite à des bébés nouveau-nés. Le président indonésien Joko Widodo a assisté au 3e congrès de l'Association des cours constitutionnelles et institutions équivalentes de l'Asie, ou AACC, qui a eu lieu du 9 au 13 août 2016 à Nusa Dua, Bali. Ce congrès a discuté d'une proposition concernant la création d'un secrétariat permanent conjoint le mardi et le président Joko Widodo ouvrira l'événement le jeudi 11 août 2016, a déclaré mardi par les relations publiques de la Cour constitutionnelle Nina Aprianti. Le congrès est participé par 18 pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe et le thème de AACC cette année est « Promotion et protection des droits constitutionnels des citoyens ». Ce congrès devrait être la base de la création d'engagements communs des États membres de l'Association des cours constitutionnels et institutions équivalentes pour promouvoir et protéger des droits constitutionnels des citoyens, a déclaré Nina. Actuellement, la Cour constitutionnelle de la République d'Indonésie n'a pas d'autorité de règlement des plaintes constitutionnelles. Il faut tirer de l'expérience de la Cour constitutionnelle d'autres pays membres de l'AACC. Le gouvernement indonésien, à travers le ministère de coordination pour les affaires politiques, juridiques et sécurité, l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme et le ministère des Affaires étrangères, organise la réunion internationale sur la lutte contre le terrorisme à l'hôtel Sofitel Nusa Dua Bali le 10 août 2016. La réunion a eu lieu coïncidant avec le deuxième sommet de financement contre le terrorisme par le Centre d'information et de l'analyse des transactions financières au PPATK de l'Indonésie et PPATK de l'Australie. Le vice-président de l'Indonésie va assister et prononcer un discours dans des deux réunions. La réunion internationale sur la lutte contre le terrorisme au IMCT se compose d'une session ministérielle avec le thème « La lutte contre le terrorisme transfrontalier » et le panel de discussion qui va discuter la question de la déradicalisation et les combattants terroristes étrangers qui seront présidés par le ministre de coordination pour la politique, la justice et la sécurité, Wiranto, comme président de la réunion. La réunion sera suivie par plus de 300 participants représentant 21 pays et 3 organisations internationales. Ces pays sont l'Australie, les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, le Brunei Darussalam, le Canada, les Philippines, la Grande-Bretagne, l'Inde, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, Sri Lanka, la Malaisie, le Pakistan, la France, la Russie, la Chine, la Thaïlande, la Turquie et le Vietnam. Ces trois organisations internationales telles que l'ASEAN, Interpol et l'ONU. La réunion devrait produire une déclaration des présidents pour renforcer la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme au BNPT, le commissaire général de police Suhardi Alius et le délégué des États-Unis ont discuté des questions de la prévention du terrorisme dans la réunion en mars du deuxième sommet international pour lutter contre le terrorisme à Nusa Dua Bali mardi. Selon Suhardi, cité par Antara, ISIS est actif dans une variété de propagande et presque tous les actes terroristes dans le monde sont faits par ISIS. Le chef de BNPT a déclaré que le mouvement d'ISIS en Indonésie était contrôlé par Bahrum Naim, le citoyen de l'Indonésie qui est maintenant à Raqqa, Syrie. En plus de discuter des menaces de terrorisme dans divers pays, notamment liées à l'existence des combattants terroristes étrangers ou FTF, dans la réunion entre les deux pays, ils ont également discuté les expériences de l'Indonésie de lutter contre le radicalisme et le terrorisme en utilisant une approche douce et une approche dure pour les auteurs d'actes terroristes. Le délégué américain Justin Sebarel a apprécié des mesures qui sont faites dans la lutte contre le terrorisme par BNPT. Il a estimé que ce concept devrait être un exemple pour la communauté internationale dans la prévention du terrorisme. Le ministre de la Défense, M. Riamizar Riakudu, a exprimé le désir de l'Indonésie pour améliorer les relations d'amitié et de coopération avec le Vietnam dans une réunion avec son homologue de Vietnam, le général Ngo Xuan Vinh. Selon la communauté de presse de l'ambassade d'Indonésie à Hanoï, reçue par Antara mardi, le ministre de la Défense, M. Riamizar Riakudu, a établi une visite de travail au Vietnam du 7 au 9 août 2016, accompagné par deux autres fonctionnaires du ministère de la Défense et l'ambassadeur d'Indonésie de la République socialiste du Vietnam, Ibnu Hadi. Le ministre Riamizar Riakudu a aussi visité de courtoisie au président du Vietnam, Trinh Y Quang. Selon le général Lynch, le Vietnam considère toujours l'importance des relations avec les forces armées et la population indonésienne et veut approfondir les relations traditionnelles entre les deux pays pour le bénéfice mutuel et pour la paix, la coopération et le développement de la communauté de l'ASEAN, la région et le monde. Les deux ministres de la Défense ont discuté des questions au niveau régional et international. Ils ont estimé que les relations de la défense et la sécurité entre les deux pays étaient positives, notamment les résultats de la mise en œuvre du protocole d'accord sur le renforcement de la coopération entre les fonctionnaires de la défense des deux pays et l'activité concernée signée en 2010. Ils ont également convenu de continuer le développement positif en mettant l'accent sur les chances de délégation et tenant l'exercice conjointe, la création de mécanismes de dialogue politique de défense, continuer le groupe de travail conjointe, la formation de communication hotline entre le ministère de la Défense et l'amélioration de la solidarité de l'ASEAN pour assurer la stabilité dans la région. Le gouvernement de la Régence de Jayawijaya reconnaît que le festival culturel de la vallée Balim est devenu l'une des icônes du tourisme de la Papouasie et de l'Indonésie qui est déjà à l'échelle internationale parce que cette activité a eu lieu à 27 fois en 2016. Le régent de Jayawijaya, M. John WMP Wetipo, a déclaré mercredi à Wamena que cet événement était une étape positive du gouvernement local pour maintenir l'art et la culture traditionnelle et les nobles valeurs de l'ethnie de Dani. Un autre événement est important pour augmenter le revenu de la communauté locale en tant que propriétaire de la culture locale et la recette locale pour le gouvernement de région de Jayawijaya. Ce festival a lieu chaque août, coïncidant avec l'anniversaire de l'indépendance indonésienne. WMP Wetipo a expliqué que la régence de Jayawijaya, qui était le cœur de l'île de la terre des oiseaux de paradis, est une destination touristique en Papouasie et en Indonésie, car il a une attraction touristique naturelle exceptionnelle et unique. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Lutte totale contre la drogue ». Depuis qu'il est devenu président à la fin de juin, le président des Philippines, Rodrigo Duterte, prouvait son engagement à éradiquer les stupéfiants. 400 personnes sont mortes dans l'opération la plus sanglante de l'histoire de ce pays. Mais Rodrigo Duterte n'a pas été satisfait. Dans son discours dans un camp militaire à Davao, le dimanche 7 août 2016, le président des Philippines a publié 150 noms de fonctionnaires, y compris les juges, les maires, les députés, les policiers et les soldats qui sont impliqués au trafic de stupéfiants. Il a ordonné aux gens qui existent sur la liste de se rendre ou d'accepter les conséquences. Le personnel militaire et la police qui sont impliqués aux stupéfiants ont été démis de ses fonctions et toutes les armes sont retirées de leurs mains. Les fonctionnaires qui sont également indiqués n'obtiennent plus des escortes de sécurité. Le résultat est que des dizaines de fonctionnaires se sont rendus après l'ultimatum de Duterte. Parmi les noms qui sont publiés, il y a une protestation et se déclare innocent. Le président philippin a refusé d'arrêter la commande de tir en place pour les trafiquants de drogue, bien qu'il ait admis qu'il y avait des erreurs dans la mise en œuvre. Le vendredi dernier, il a réitéré que la commande n'a pas indistinctement, y compris aux policiers. Cette politique est conforme à sa promesse de campagne pour résoudre le problème des stupéfiants dans les 6 mois. En plus de tuer 400 personnes, pendant Duterte devient le président depuis la fin de juin, 4400 personnes ont été emprisonnées. Cette politique rend les concessionnaires et les utilisateurs de drogue saisis par la peur. 500 000 personnes ont choisi de se rendre aux autorités des Philippines, y compris trois maires de la région de Maguindanao dans le sud des Philippines pour les réhabiliter Duterte à l'intention d'utiliser le camp militaire. Bien que cette politique provoque la peur parmi les concessionnaires, mais des centaines d'organisations anti-drogue et les groupes qui soutiennent les droits de l'homme a demandé à l'ONU de dénoncer la façon du président Duterte d'éradiquer le trafic de drogue. Les demandes sont soumises à l'Organe international de contrôle des stupéfiants et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, un sénateur philippin, Leila de Lima, exigeant l'enquête sur les politiques du président Duterte. Ce qui est fait aux Philippines devient une leçon importante pour l'Indonésie, qui a également connu des médicaments d'urgence. Est-ce que l'action décisive du président Duterte doit être faite pour éradiquer la drogue en Indonésie? Est-ce que la peine maximale et la peine de mort ne suffisent pas? Les pour et contre peuvent arriver, mais la lutte contre la drogue ne doit pas être arrêtée. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis lointains, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec la rénovation majeure du temple Borobudur le 10 août 1973. Borobudur est l'un des plus grands temples bouddhistes d'Asie situé dans le village de Borobudur, Magelang, Central Java, en Indonésie. L'emplacement du temple est à environ 100 km au sud-ouest de Semarang, à 86 km à l'ouest de Surabaya et à 40 km au nord-ouest de Yogyakarta. Le temple en forme de stupa a été fondé par les bouddhistes Mahayana autour de l'an 400 après Jésus-Christ, sous le règne de la dynastie Sailendra. Après avoir été enterré pendant des centaines d'années, le temple Borobudur a finalement redécouvert en 1814. Borobudur a été restauré à plusieurs reprises dans l'époque coloniale néerlandaise. Enfin, l'aide de l'UNESCO, Borobudur a restauré à nouveau massivement. La cérémonie de restauration a été officiellement lancée par le président indonésien Suharto le 10 août 1973. L'autre information est sur la Journée nationale de l'éveil de la technologie. La Journée nationale de l'éveil de la technologie est célébrée chaque année le 10 août en vertu du décret présidentiel numéro 71-1995. Le but de la commémoration est en plus d'apprécier le succès des enfants de l'Indonésie dans l'exploitation, le contrôle et le développement de la science et de la technologie, ainsi que de les encourager à stimuler toujours l'innovation et la création pour la prospérité et la civilisation de l'Indonésie. En montrant le travail de la science et de la technologie, la Journée nationale de l'éveil de la technologie est également un élan pour assurer la responsabilité du public à tout ce qui a été fait par la communauté de la science et de la technologie avec les ressources données par le peuple de l'Indonésie. La commémoration de la Journée nationale de la technologie, qui est une étape importante dans l'éveil de cette technologie, débute à partir du premier vol de l'aéronef N-250 Gatot Gacha le 10 août 1995 à Bandung. Le résultat des travaux des enfants est une preuve que l'Indonésie a réussi à favoriser l'innovation, l'esprit pour développer la science et la technologie nationale. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec la Journée nationale des anciens combattants. La Légion des anciens combattants de la République d'Indonésie est une organisation qui réunit les anciens combattants de la République d'Indonésie. Conformément à la loi numéro 15 en 2012, l'État doit donner des prix à ceux qui ont contribué activement à leur travail sur la base volontaire dans le lien de l'unité de l'armée, à la fois officielle et les troupes paramilitaires, et ou tués dans la bataille pour combattre, défendre et maintenir l'indépendance de la République d'Indonésie, ainsi que ceux qui sont membres actifs dans l'attribution sous la bannière des Nations Unies. Le gouvernement a déterminé le 10 août comme journée nationale des anciens combattants incarnée par le décret présidentiel numéro 30-2014 signé par le président Susilo Bambang Yudhoyono le 10 août 2014. La commémoration de la journée nationale des anciens combattants est destinée à rappeler le cessez-le-feu le 10 août 1949 après les indépendantistes indonésiens et lutté contre les troupes néerlandaises. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point sur l'environnement. Et pour le titre, le ministre de l'Environnement a observé les forêts indigènes. Sans les chaussures et vêtues de noir, la ministre de l'Environnement et des Forêts de l'Indonésie, Siti Nurbaya, lundi a observé la zone indigène d'Amatoa Kajang, la résidence de Bulukumba, la province de Sulawesi du Sud. La ministre, portant le vêtement noir comme une forme de reconnaissance et de respect des traditions maintenues par la tribu Kajang. À cette occasion, la ministre Siti Nurbaya a tenu un dialogue avec les autorités traditionnelles et le chef tribal d'Amatoa Kajang qui a le titre Puto Palasa. La visite de la ministre Siti Nurbaya liée au plan du gouvernement pour changer le statut de forêt Kajang de la forêt de production limitée aux forêts indigènes. Auparavant, le ministère de l'Environnement et des Forêts a déclaré les forêts avec une superficie de 303 hectares ont rempli techniquement les normes de la zone des forêts indigènes en Indonésie. À cette visite, la ministre Siti Nurbaya a promis d'inviter le président Joko Widodo à visiter la zone indigène d'Amatoa Kajang, Bulukumba. La ministre a rapporté d'abord les résultats de sa visite au président le 15 août. Selon elle, le président Joko Widodo aide grandement le développement de la zone de forêt existante en Indonésie. Toutefois, il n'y a plus le défrichement qui va conduire à des conflits et un crime contre la société. Elle espère que le président inaugure immédiatement les zones forestières indigènes d'Amatoa Kajang. Ainsi, la zone d'Amatoa Kajang est la première forêt indigène en Indonésie fixée par le gouvernement. La communauté indigène d'Amatoa Kajang habite dans la région indigène en héréditaire, précisément au district Kajang. Les forêts indigènes d'Amatoa sont situées au village de Tanah Toa, de Patiruang, de Bontabaji et de Malaleleng, le district de Kajang, la préfecture de Bulukumba en province de Sulawesi du Sud. La plupart des habitants sont agriculteurs. Basé sur les données des statistiques du gouvernement de résidence de Bulukumba, le nombre de la communauté indigène de Kajang jusqu'à présent atteint 44 866 habitants ou 11,83% du nombre total des habitants de Bulukumba. La promulgation du district d'Amatoa Kajang comme la forêt de production limitée en 1999 et incompatible avec le maintien des zones forestières fait par la communauté indigène de Kajang qui dure en héréditaire même avant que la République unitaire d'Indonésie soit formée. Après la fixation comme une forêt coutumière, les peuples autochtones auront le droit de la gestion des forêts indigènes d'Amatoa Kajang. Ces droits couvre la gestion et l'utilisation des forêts indigènes en conformité avec la sagesse locale, profiter et utiliser des connaissances traditionnelles dans l'utilisation des ressources génétiques contenues dans les forêts indigènes, utiliser des produits de bois de forêt non ligneux et les services environnementaux conformément aux fonctions des forêts indigènes et recevoir des incitations sous forme de programmes de développement dans le secteur forestier du gouvernement central et du gouvernement local. Chers auditeurs, c'était la mise au point sur l'environnement pour ce soir.
L'hépatite est une infection de l'organe de voie humaine qui est causée par divers facteurs tels que le virus, bactéries, médicaments, alcool et d'autres substances dangereuses qui peuvent conduire à la mort du patient. Le gouvernement indonésien, à travers le ministère de la Santé, mène le contrôle en effectuant une série de tests de l'hépatite pour les femmes enceintes tout au long de l'an 2016. Il était dit par le directeur du contrôle de la maladie contagieuse du ministère indonésien de la Santé, Windra Waworuntu, à la Voix de l'Indonésie, en mars de l'atelier des médias lié à la Journée mondiale de l'hépatite sur le thème « Connaître l'hépatite, agir aujourd'hui » à Jakarta, mardi.
Sejauh ini yang kita lakukan itu adalah deteksi dini.
Jusqu'à présent, le ministère indonésien de la Santé a fait la détection précoce de l'hépatite B. Nous se concentrons sur les femmes enceintes et cette année, nous menons 500 000 tests pour les femmes enceintes. Si elles sont détectées ayant une hépatite positive, cela signifie que leurs bébés sont également infectés. Cela signifie que leurs bébés sont également infectés. Le contrôle sur les cas d'hépatite est l'un des programmes du gouvernement. De plus, Windra Waworuntu a affirmé qu'à présent, il y avait 28 millions d'Indonésiens qui sont infectés par l'hépatite. 14 millions d'entre eux souffrent d'hépatite chronique. Par conséquent, pour prévenir la propagation de l'hépatite à l'avenir, Windra a déclaré que le gouvernement donne régulièrement le vaccin anti-hépatite à des bébés nouveau-nés. Le président indonésien Joko Widodo a assisté au 3e congrès de l'Association des cours constitutionnels et institutions équivalentes de l'Asie, ou AACC, qui est tenu du 9 au 13 août 2016 à Nusa Dua, Bali. Ce congrès a discuté d'une proposition concernant la création d'un secrétariat permanent conjoint le mardi et le président Joko Widodo ouvrira l'événement le jeudi 11 août 2016, a déclaré mardi par les relations publiques de la Cour constitutionnelle Nina Aprianti. Le congrès est participé par 18 pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Et le thème de AACC cette année est « Promotion et protection des droits constitutionnels des citoyens ». Ce congrès devrait être à la base de la création d'engagements communs des États membres de l'Association des cours constitutionnels et institutions équivalentes pour promouvoir et protéger les droits constitutionnels des citoyens, a déclaré Nina. Actuellement, la Cour constitutionnelle de la République d'Indonésie n'a pas d'autorité du règlement des plaintes constitutionnelles. Il faut tirer de l'expérience de la Cour constitutionnelle d'autres pays membres de AACC. Le gouvernement indonésien, à travers le ministère de coordination pour les affaires politiques, juridiques et sécurité, l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme et le ministère des Affaires étrangères, organise la réunion internationale sur la lutte contre le terrorisme à l'hôtel Sofitel Nusa Dua, Bali, le 10 août 2016. La réunion a eu lieu coïncidant avec le 2e sommet de financement contre le terrorisme par le Centre d'information et de l'analyse des transactions financières au PPATK de l'Indonésie et PPATK de l'Australie. Le vice-président de l'Indonésie va assister et prononcer un discours dans des deux réunions. La réunion internationale sur la lutte contre le terrorisme, ou IMCT, se compose d'une session ministérielle avec le thème « La lutte contre le terrorisme transfrontalier » Et le panel de discussion qui va discuter la question de la déradicalisation et les combattants terroristes étrangers qui seront présidés par le ministre de coordination pour la politique, la justice et la sécurité, Wiranto, comme président de la réunion. La réunion sera suivie par plus de 300 participants représentant 21 pays et 3 organisations internationales. Ces pays sont l'Australie, les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, le Brunei Darussalam, le Canada, les Philippines, la Grande-Bretagne, l'Inde, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, Sri Lanka, la Malaisie, le Pakistan, la France, la Russie, la Chine, la Thaïlande, la Turquie et le Vietnam. Ces trois organisations internationales telles que l'ASEAN, Interpol et l'ONU. La réunion devrait produire une déclaration des présidents pour renforcer la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme ou BNPT, le commissaire général de police Suhardi Alius et le délégué des États-Unis ont discuté des questions de la prévention du terrorisme dans la réunion en marge du deuxième sommet international pour lutter contre le terrorisme à Nusa Dua, Bali, mardi. Selon Suhardi, cité par Antara, ISIS est actif dans une variété de propagande et presque tous les actes terroristes dans le monde sont faits par ISIS. Le chef de BNPT a déclaré que le mouvement d'ISIS en Indonésie était contrôlé par Bahrum Naim, le citoyen de l'Indonésie qui est mettant à Raqqa, Syrie. En plus de discuter des menaces du terrorisme dans divers pays, notamment liées à l'existence des combattants terroristes étrangers ou FTF, dans la réunion entre les deux pays, ils ont également discuté les expériences de l'Indonésie de lutter contre le radicalisme et le terrorisme en utilisant une approche douce et une approche dure pour les auteurs d'actes terroristes. Le délégué américain Justin Sebarel a apprécié des mesures qui sont faites dans la lutte contre le terrorisme par BNPT. Il a estimé que ce concept devrait être un exemple pour la communauté internationale dans la prévention du terrorisme. Le ministre de la Défense, M. Riamizar Riakudu, a exprimé le désir de l'Indonésie pour améliorer les relations d'amitié et de coopération avec le Vietnam dans une réunion avec son homologue de Vietnam, le général Ngo Xuan Linh. Selon la communauté de presse de l'ambassade d'Indonésie à Hanoï, reçue par Antara mardi, le ministre de la Défense, M. Riamizar Riakudu, a établi une visite de travail au Vietnam du 7 au 9 août 2016, accompagné par deux autres fonctionnaires du ministère de la Défense et l'ambassadeur d'Indonésie de la République socialiste du Vietnam, Ibnu Hadi. Le ministre Riamizar Riakudu a aussi visité de courtoisie au président du Vietnam, Trinh Y Quang. Selon le général Linh, le Vietnam considère toujours l'importance des relations avec les forces armées et la population indonésienne et veut approfondir les relations traditionnelles entre les deux pays pour le bénéfice mutuel et pour la paix, la coopération et le développement de la communauté de l'ASEAN, la région et le monde. Les deux ministres de la Défense ont discuté des questions au niveau régional et international. Ils ont estimé que les relations de la défense et la sécurité entre les deux pays étaient positives, notamment les résultats de la mise en œuvre du protocole d'accord sur le renforcement de la coopération entre les fonctionnaires de la défense des deux pays et l'activité concernée signée en 2010. Ils ont également convenu de continuer le développement positif en mettant l'accent sur les chances de délégation étendant l'exercice conjoint, la création de mécanismes de dialogue politique de défense, continuer le groupe de travail conjoint, la formation de communication hotline entre le ministère de la Défense et l'amélioration de la solidarité de l'ASEAN pour assurer la stabilité dans la région. Le gouvernement de la Régence de Jayawijaya reconnaît que le festival culturel de la vallée Balim est devenue l'une des icônes du tourisme de la Papouasie et de l'Indonésie qui est déjà à l'échelle internationale parce que cette activité a eu lieu à 27 fois en 2016. Le régent de Jayawijaya, M. John WMP Wetipo, a déclaré mercredi à Wamena que cet événement était une étape positive du gouvernement local pour maintenir l'art et la culture traditionnelle et les nobles valeurs de l'ethnie de Dani. Un autre événement est important pour augmenter le revenu de la communauté locale en tant que propriétaire de la culture locale et la recette locale pour le gouvernement de région de Jayawijaya. Ce festival a lieu chaque août, coïncidant avec l'anniversaire de l'indépendance indonésienne. WMP Wetipo a expliqué que la régence de Jayawijaya, qui était le cœur de l'île de la terre des oiseaux de paradis, est une destination touristique en Papouasie et en Indonésie, car il a une attraction touristique naturelle exceptionnelle et unique. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à Lombok en province de Nusa Tenggara Ouest. Chers auditeurs, outre Bali, Lombok devient aussi la destination touristique préférée en Indonésie. Lombok, une île dans la province de Nusa Tenggara Ouest, est connue avec sa belle nature. L'île a de nombreux surnoms. Certains l'appellent une île de mille mosquées ou une île de mille plages. Il est connu comme l'île de mille plages parce que cette île possède de nombreuses plages. Toutes les parties de cette île ont des plages avec un beau panorama naturel. Il y a la plage Senggigi qui est très populaire et d'autres plages. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous invitons à profiter de la beauté de la plage de Sega. Cette plage est accessible directement en utilisant le transport terrestre de l'aéroport international Praia à Lombok. Chers auditeurs, la plage Seger est une plage naturelle et unique, car en plus de voir du sable blanc et le panorama de collines, cette plage présente également le panorama des récifs coralliens qui apparaît de la mer, appelé Tongkong ou la pierre de Jamur. Cette pierre Jamo peut être accessible lors de marée basse. Conformément à son nom, Seger ou en français frais, cette plage présente un paysage naturel qui rend les yeux des visiteurs fraîches, surtout pendant la saison des pluies, parce que dans la saison sèche, les collines seront sèches. La plage Seger a deux côtés, à savoir la plage Seger du côté intérieur et extérieur. De portée, nous pouvons voir directement les beaux paysages. Ceci est le côté intérieur de la plage Seger. Le cluster de la colline et de la roche qui apparaît de la mer, le sable blanc et le ciel bleu se gâtent vos jours. non seulement un paysage naturel qui est toujours belle, vous pouvez également profiter du paysage sous-marin incroyable. Comme d'autres activités sur la plage, vous pouvez aussi faire diverses activités sur la plage Segor, telles que les bains de soleil, la natation, le surf, ainsi que profiter le coucher du soleil. Chers auditeurs, si nous tournons à droite de la porte d'entrée de la plage Segor, vous verrez la zone touristique Novotel avec le paysage exotique de la plage Segor d'Alam et un pont s'étend vers Novotel. Habituellement, les touristes viennent en août. À ce mois, il y a généralement de hautes vagues dont la hauteur atteint environ 4 mètres. Ces hautes vagues sont difficiles pour les surfeurs étrangers. Chers auditeurs, chaque année, en février ou mars, la communauté locale organise le rituel Baunyale. Baunyale est un rituel annuel qui est marqué par l'apparition de vers marins ou nyale. On a cru que ce rituel est comme l'incarnation de la princesse Mandalika. Cette activité est basée sur le mythe d'une princesse sur l'île de Lombok. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La plage Segor à Lombok ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne qui vous guide de parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est membatalkan rencana. Je répète, membatalkan rencana. En français, annuler des plans. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions liées au sujet d'aujourd'hui. Rencana kita. Rencana kita. En français, nos plans. Lupa. Lupa, en français, oublier. Malam ini, en français, ce soir. Pergi, pergi, en français, aller. Bioscope, bioscope, en français, cinéma. Maaf, maaf, en français, désolé. Tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi. En français, ne peut pas aller. Dengan kamu. Dengan kamu. En français, avec vous. Menemani adik. Menemani adik. En français, accompagner la sœur. Ke bandara. Ke bandara. En français, à l'aéroport. Jika. Jika. En français, si. Besok malam. Besok malam. En français, demain soir. Rencana. Rencana. En français, plan. Belajar bersama teman. Belajar bersama teman. En français, étudier avec des amis. Membatalkan. Membatalkan. En français, annuler. nanti, nanti, en français, plus tard. Membuat rencana baru, membuat rencana baru, en français, créer un nouveau plan. Chers amis, je vais donner maintenant un exemple de conversation intitulé Membatalkan rencana, en français, annuler des plans. Cette conversation est entre Andy A et Danu B. A. Danu, bagaimana rencana kita malam hari ini? Danu, bagaimana rencana kita malam hari ini? En français, Danu, comment sont nos plans ce soir? B. Rencana apa? Rencana apa? En français, quel plan? A. Kamu lupa? Kamu lupa? En français, vous avez oublié? Malam ini, kita akan pergi ke bioskop. Malam ini, kita akan pergi ke bioskop. En français, ce soir, nous allons aller au cinéma. B. Oh maaf, saya tidak bisa pergi dengan kamu malam ini. Oh maaf, saya tidak bisa pergi dengan kamu malam ini. En français, oh désolé, je ne peux pas aller avec vous ce soir. Saya mau mengantar adik ke Bandara Soekarno-Hatta. Saya mau mengantar adik ke Bandara Soekarno-Hatta. En français, je vais accompagner ma sœur à l'aéroport Soekarno-Hatta. A. Bagaimana jika besok malam? Bagaimana jika besok malam? En français, que faire si demain soir? B. Maaf, saya tidak bisa. Maaf, saya tidak bisa. En français, désolé, je ne peux pas. Saya ada rencana untuk belajar bersama dengan teman. Saya ada rencana untuk belajar bersama dengan teman. En français, j'ai déjà des plans pour étudier ensemble avec des amis. A. Baiklah, kita batalkan saja rencana ini. Baiklah, kita batalkan saja rencana ini. En français, d'accord, nous annulons ce plan. B. Kita akan buat rencana baru. Kita akan buat rencana baru. En français, nous allons faire un nouveau plan. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, voici le magazine musique de la Voix de l'Indonésie, édition de mercredi. Et pour ce soir, ce magazine vous présente de la musique, musiciens indonésiens. Et pour ce soir, on vous présente la chanteuse Iga Mawarni, qui est connue dans le monde du jazz. Bon, pour le début de notre rencontre, allez écouter la première chanson de Iga Mawarni, intitulée Kasmaran. Bonne écoute. Chers amis, on avait déjà entendu la chanson de Kasmaran de Iga Mawarni. Vous avez, en 1991, cette chanson était si populaire en Indonésie. Grâce à cette chanson, son nom est célèbre, ainsi qu'on peut mettre son nom comme chanteur et musicien populaire indonésien qui était déjà populaire. Avec sa douce voix et en nuance de jazz, Iga Mawarni a beaucoup de fans. En Indonésie, vous avez depuis sa petite, Iga Mawarni s'intéresse à l'art et la culture. À sa ville natale, Solo, en province de Java Central, elle participe de tel ou tel concours culturel et elle remporte beaucoup de prix. Mais ce qui est plus énorme, lorsqu'elle a gagné le premier prix dans le concours de star de radio et télévision en 1978, outre de chanter, Iga Mawarni a doué de danser. Chers amis, alors encore écoutez la chanson de Iga Mawarni intitulée Pesonamu. Bonne écoute.
tersibak olehmu. Seringkali kau hantui jalan pikiranku hingga ku terlena jatuh dalam dekatmu.
Auditrice et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5 Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.